Bonjour. Il y a quelques semaines, on s'est retrouvés entre hommes en forêt. Alors, on n'était pas beaucoup parce qu'il faisait froid, il faisait moche, il pleuvait. Voilà, il y avait tout pour pas motiver les gens. Mais on a vécu un chouette moment ensemble. Et Cyril m'avait demandé de partager quelque chose. Et je réfléchissais à ce que je pouvais partager. Et puis finalement, j'aurais partagé ce que je vais vous partager ce matin. J'ai un petit peu plus travaillé le thème, hein. J'ai eu le temps de travailler un peu plus jusqu'à aujourd'hui. Mais quelque part, ce qu'on a déjà vécu ce matin, ce qui a été chanté, ce qui a été proclamé, finalement, c'est ce que je vais vous partager. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Oui, je crois que ça vaut la peine parce qu'on doit réaliser quel Dieu on a, quel Dieu merveilleux on a et ce qu'il attend de nous. Qui est-ce qui a déjà eu à cœur dans sa vie un projet qu'on a l'impression que Dieu nous a donné, que Dieu a placé sur nous? Un projet peut-être dans lequel on s'est donné, puis à un moment donné, on a l'impression que, ouais, on n'y arrivera pas, quoi. On croit qu'on va arriver au but, puis non, on n'y arrivera pas, on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin, quelque chose qui nous décourage, et on retombe et on a envie d'abandonner. Il y a d'autres fois où peut-être on se dit non, cette fois-ci je me laisserai pas avoir et j'irai jusqu'au bout, je persévérerai. Ça me fait penser quand nos enfants étaient petits, on était partis une fois au Valais, je sais plus trop où, mais il y avait un glacier qu'on voyait pas très loin devant nous. Puis on s'est dit, ben, on va y aller. Alors, on a passé une petite colline, mais elle était un peu plus loin, il y avait une autre colline. On a dû repasser une colline, il était un peu plus loin. On a passé plusieurs collines, mais on y est arrivé, mais on a dû persévérer, c'est vrai qu'on a dû persévérer. Puis après, il fallait revenir, mais bon, c'était autre chose encore. Mais on y arrivait. Parfois, il y a cette notion de persévérance où on réalise que, oui, le but, je le vois, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'y arriver. Quand je préparais ce message, j'ai eu cette pensée. Ça peut-être concerner une personne qui est ici, une personne qui va écouter ce message plus tard, mais quelqu'un qui a à cœur de composer des chants, qui a peut-être même reçu une parole dans ce sens, quelque chose de concret. Tu essayes, tu fais, tu as commencé à écrire des choses, un chiffon, loin, on recommence, et puis finalement tu es découragé, tu dis non, mais c'est pas pour moi, j'arriverai pas. Et je crois que le message de ce matin, il est pour toi. Ça peut être autre chose dans la vie de chacun, ça peut être des choses qui sont là sur notre cœur. À un moment donné, et à force d'essayer, on abandonne, on oublie, ou parfois même on n'a pas le courage de commencer parce qu'on voit tellement une montagne devant nous. Alors on va faire un bout de chemin ce matin avec une équipe au travers de laquelle le Saint-Esprit va nous parler. Il va parler de nos défis ce matin. Et on va aller bien loin en arrière dans une histoire qui est très connue, qu'on connaît bien. Rappelez-vous, Dieu a donné une promesse à Abraham. Je donne ce pays à ta descendance. Il a rappelé cette promesse à Isaac, il l'a rappelé à Jacob, et puis il l'a rappelé à Moïse, à tout le peuple d'Israël dans le désert du Sinaï. Et à un moment donné, c'est dans Nombre 13 qu'on peut lire ça, Moïse envoie 12 espions pour explorer Canaan. Le pays qui avait été promis au peuple. Dieu avait promis de donner ce pays à son peuple. Et puis, au retour de ces 12 espions, on se rappelle de l'histoire, c'est un pays génial, regardez ce qu'on vous a ramené, c'est un pays couvert d'abondance. C'est suivi d'un mot avec quatre petites lettres, hein, mais on n'y arrivera jamais. Ce n'était pas la vision de tous les espions, mais de la grande majorité. On va y revenir. Et je crois que c'est déjà une première leçon pour nous. Voilà, l'idée là qui m'est venue, c'est une idée géniale. C'est une parole géniale. J'essaye d'imaginer ce que ça pourrait donner, le résultat, on se l'imagine devant nous. Mais j'y arriverai jamais. Mais c'est pas pour moi. Mais j'ai pas les compétences. J'ai pas les capacités. C'est un projet génial pour l'Église, mais on n'y arrivera jamais. C'est quelque chose que j'ai pensé il y a un certain temps quand vous vous rappelez de la première crèche vivante qu'on a faite. Alain est arrivé à un moment donné, c'était bien, l'automne était déjà bien avancé, avec un grand projet. Waouh, mais c'est génial toute ton idée, Alain. Mais franchement, au fond de moi, mais on n'y arrivera jamais, dans le temps qui reste, le temps qui nous reste. Mais on avait un gars visionnaire, puis lui, il a tenu ferme. Et on y est arrivé, on a vécu quelque chose de génial. S'il avait écouté certaines, je pense que j'étais pas le seul à ce moment-là, mais s'il avait écouté ces voix-là, on ne s'est arrivé à rien, on se serait arrêté. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, ce « mais on n'y arrivera pas, mais j'y arriverai pas », c'est la porte ouverte à des pensées, des réflexions, des commentaires, qui sont comme une vis sans fin qui nous tire toujours plus bas, au fond d'un puits. Et c'est le cas des espions, de ces espions et pour le peuple entier, on peut le lire dans Nombre 13, à partir du verset 31, à la fin du verset 31. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Au départ, ils voient quelque chose de génial. Et puis, à force de s'imaginer tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas aller, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, et on s'enfonce complètement. Et il n'y a plus rien de positif à la fin. Plus rien. Sauf pour Caleb et Josué, avec l'Éternel, c'est possible. On le verra plus loin, ça. Mais je suis interpellé par la façon dont les choses se passent pour ces espions. Je suis sûr que tous se réjouissaient de conquérir ce pays. Et tous ont dû se dire, en voyant cette immense grappe de raisins, vous l'imaginez tous, là, cette image qu'on avait à l'école du dimanche, là, avec les deux hommes qui portent cette grande grappe de raisins, ils devaient tous se dire, bon, mais celle-là, il faut qu'on la montre à tout le peuple. Et à leur retour, ils sont enthousiastes. Dans Nombre 13, 27, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Voilà, ça c'est les premières paroles qui sont données. Et ça pèse lourd dans la balance, d'où ma fameuse balance. J'espère que vous êtes un petit peu imaginatif. C'est une balance avec deux plateaux, hein. Vous l'imaginez bien. Je vais juste mettre un papier dessus pour un peu la protéger quand même. Et il voit quelque chose de génial. Il voit une terre géniale. Alors, ça pèse lourd dans la balance. 2 kilos. Je pose là-dessus. 2 kilos. Mais c'est un peuple puissant. Bon, par rapport à la grandeur de Dieu, c'est peut-être pas grand-chose. On va mettre un peu moins. C'est 1 kilo. 1 kilo tout seul. Il y a des villes fortifiées. Un autre poids. Elles sont très grandes d'ailleurs, ces villes, hein. On va rajouter un petit peu. Il y a des géants. Encore un poids de plus. Et gentiment, ça prend du poids de l'autre côté de la balance. Et à ce moment-là, les espions sont face à leur balance, là, et ils voient la réalité. La réalité, c'est que, dans la réalité visible, il y a tout ça qui pèse. Il y a toutes ces réalités qui pèsent dans ce qu'on va devoir vivre, dans ce qu'on va devoir faire. Et ça, on ne peut pas nier, c'est vrai. Il y avait des villes fortifiées, c'est des choses qui sont là, qui sont réelles. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre Josué et Caleb et les 10 autres? Ils n'ont simplement pas fixé leur regard à la même place sur la balance. Ceux qui voyaient les difficultés, ils ont commencé à dénigrer le pays. Tiens, on peut en rajouter un peu. Ils dénigrent le pays, donc ça rajoute encore. Puis, c'est vrai, face à tous ces géants, ils étaient comme des sauterelles. Donc on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Finalement, on voit plus que ce gros truc-là qui est devant nous. Et c'est une réalité tout à fait humaine, c'est vrai. La réalité, on la voit. C'est toutes des petites choses qu'on accumule finalement et ça nous empêche de laisser Dieu agir. Alors je me suis posé la question à leur place, face à cette balance, de quel côté est-ce que je fixe mon regard? Franchement, on est quand même attiré par le gros tas, hein. Et dans ma vie, dans notre vie, combien de paroles données dans la vie de l'Église aussi peut-être? Combien de paroles données, de projets qui étaient là, se sont pas réalisés parce qu'on a vu toutes les difficultés qu'il y avait à surmonter, toutes les choses qu'il y avait à faire, tout ce que ça impliquerait. Et on les accumule les unes après les autres et ça en fait un gros morceau. Et notre regard, il est attiré par ce gros tas. On finit par en faire une montagne. Et quand je parle de montagne, ça me fait penser à un autre chant qu'on a appris aux enfants. Si on a la foi comme un petit grain de montagne, comme un petit grain de sénévé, pardon, oui. Je pourrais dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Vous vous rappelez? Ah tiens, une montagne qui peut se jeter dans la mer. Donc il y a une possibilité, il y a quelque chose qu'on peut faire. De quel côté est-ce que je vais fixer mon regard? Regarder du côté de Dieu, c'est vivre. Le fameux verset que Riza nous rappelle souvent ces derniers temps, Psaume 91:7, « Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ton regard, il reste fixé sur Dieu. Il peut se passer plein de choses de l'autre côté de la balance, mais si ton regard est fixé sur Dieu, il restera fixé sur lui. Caleb et Josué, ils ont vu le même pays. Ils ont vu les richesses, les mêmes richesses que les autres. Ils ont vu les mêmes géants, les mêmes villes fortifiées. Et qu'est-ce qui fait la différence pour eux? Ils connaissent leur Dieu. Ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance. Et dès ce moment-là, ils arrêtent déjà d'en rajouter sur la fameuse montagne. Parce qu'ils regardent à Dieu. Ils peuvent lui faire confiance. Je ne sais pas comment est-ce que le peuple d'Israël imaginait que Dieu allait faire pour donner ce territoire promis quand ils ont envoyé les 12 espions. Est-ce que la majorité s'imaginait qu'ils allaient trouver devant eux un pays, un super pays, ça je pense, mais accueillant, avec les demeures des habitants grandes ouvertes, mais venez, voyez où vous serez dans quelques temps, on vous ouvre les portes au grand, les lits seront faits, la table sera mise quand vous arriverez. Nous, on vous fait de la place. Mais parfois, c'est comme ça qu'on s'imagine ce que Dieu nous dit. Que sa parole, elle fait que tout va être parfait, tout va être beau, tout va être sans problème. Et c'est vrai, il y a une promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est une parole de Dieu. Et sa parole, elle est agissante. Alors, c'est sa parole qui est agissante. Hein. Ce n'est pas la façon dont on imagine qu'elle va se réaliser. Et c'est sa parole qui est agissante. De nos jours, on n'aime pas les risques. Il faut réduire les risques au maximum. Et il faut qu'il n'y ait plus de risques du tout. Limiter le risque. On l'entend tout le temps, ça. Hein. Même dans ce qu'on est en train de vivre avec cette fameuse pandémie, avec toutes les choses qu'on nous demande de faire, limiter le risque. C'est très bien. Mais, et le mais parfois est aussi utile dans l'autre sens. Quand la peur du risque prends le pas sur ma confiance en Dieu. C'est mon regard qui se fixe sur ce que je vois et c'est ça qui va déterminer mon attitude. La réalité, elle est là. Mais qu'est-ce qui va déterminer mon attitude? Où est-ce que je vais fixer mon regard? Qu'est-ce que je vais voir? Sur quoi est-ce que je vais m'appuyer? Et Josué et Caleb sont des exemples pour nous. Dans Nombre 14, les versets 6 à 9. Donc voilà, tout le pays s'est plaint, tout le pays a commencé, tout le peuple a commencé à murmurer. Et au verset 6 du chapitre 14, membre de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Il voit bien plus loin que cette fameuse balance. Il voit au-delà. Il voit Dieu. Il voit les promesses de Dieu. Il voit un Dieu qui agit, un Dieu qui va aller au bout de sa promesse. Le résultat, tout le peuple parle de lapider, de les lapider. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. La gloire de Dieu apparaît sur la tente de la rencontre. Et là, c'est Dieu qui s'en mêle. Et les conséquences, elles sont graves, elles sont dramatiques, on les connaît, au verset 30. « Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Noun. » La promesse de Dieu, pour ces deux gars qui lui ont fait confiance, elle est renouvelée, elle est là, elle reste. C'est une parole qui reste, c'est une parole qui va s'accomplir. Alors comment est-ce que cette promesse s'accomplit pour eux? Tout d'abord, c'est drôle parce que c'est totalement différent. Ils ont reçu les deux la même promesse, ils ont reçu les deux les mêmes paroles, ils ont vécu la même chose, et Dieu a agi d'une manière tellement différente pour les deux. Josué, on connaît tous un petit peu son histoire, mais on va là simplement là, rappeler quelques points au travers de quatre textes là que j'ai pris, que je vais lire à la suite. Tout d'abord, dans Nombre 27, les versets 18 à 20. L'Éternel dit à Moïse, donc c'est plus loin dans l'histoire, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui, tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité, afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. » Dans Deutéronome 3, versets 27 à 28, Dieu parle à Moïse et lui dit, « Monte au sommet du Pisga, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. » Puis, il y a l'amour de Moïse, et on lit dans Deutéronome 34, à partir du verset 9, « Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Et Josué 1, versets 1 et 2, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Quand on lit un petit peu ces quatre textes-là, on se dit, mais Josué, il n'a qu'à attendre, les choses se passent. Dieu parle à Moïse, prépare-le, fais tout pour lui, ouvre-lui la voie. Dans la réalité, il a quand même tourné 40 ans en rond dans le désert. avec tout le peuple. Il a vu toute sa génération mourir les uns après les autres. Il a subi les conséquences de la faute des autres. Il l'a subi avec le peuple. Mais pendant ce temps, Dieu préparait Josué pour ce pourquoi il l'avait appelé. Parce que c'était une grande responsabilité, c'est vrai, de faire passer ce peuple, de conduire ce peuple. Josué, il était avec ce peuple, il a vu comment il fonctionnait. Il a vu que c'était un peuple rebelle. Josué, il était avec le peuple quand il y a eu les 250 hommes qui étaient respectés dans le peuple, qui se sont rebellés contre Moïse sous la conduite de Corée. Et puis, il y a eu des conséquences terribles encore là pour ces personnes. Il a vu le peuple murmurer contre ses responsables. Et il a vu les conséquences qu'il y a à la rébellion, à la désobéissance. Mais là encore, il ne s'est pas laissé impressionner. Il a continué de regarder du bon côté de la balance, du côté de Dieu. Il y a un petit détail qui m'a frappé pour Josué. Je n'avais jamais fait attention à celui-là. Il est avant, au début de Nombre 13, au moment où Moïse choisit les 12 espions, un par tribu. Alors il est mentionné que pour la tribu de tel et tel, c'est un tel fils de un tel. À un moment donné, c'est pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Puis un peu plus loin, il est dit, Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Osée, ça veut dire sauve, salut. Voilà, c'est des super mots, des mots géniaux. Il y a quelque chose de concret là derrière. Mais Josué, ça veut dire, il y a le même mot dedans, sauve et salut. Mais il y a un mot avant, l'Éternel. L'Éternel est salut, l'Éternel sauve. Pour Josué, il y a quelque chose de totalement différent qui se passe, qui doit se passer à ce moment-là. Il n'a plus la responsabilité. C'est Dieu qui prend la responsabilité et qui l'utilise. L'Éternel est salut au travers de Josué. L'Éternel sauve au travers de Josué. C'est l'Éternel qui prend la première place. Et je me dis, mais si Moïse lui a changé son nom à ce moment-là, Moïse l'avait déjà repéré. Moïse savait déjà, Dieu lui avait déjà montré que oui, il allait faire quelque chose de cet homme-là. Mais il y avait beaucoup de choses à vivre encore jusque-là. Il y avait tout un chemin à vivre. Et il l'a vécu avec fidélité, il a avancé avec Moïse, il a pris les responsabilités que Moïse lui confiait, et à un moment donné, il était prêt. Je ne sais pas si lui-même était prêt, mais il savait que Dieu était avec lui et qu'il allait le guider, il allait le conduire. Et il est entré dans sa destinée. Le deuxième, Caleb. Juste après la rébellion du peuple, qui suit le rapport qui est fait par les espions, Dieu donne une promesse au sujet de Caleb. C'est dans Nombre 14, verset 24. « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. » Ensuite, vous pouvez lire toute cette histoire. On n'entend plus parler de Caleb. Il est retourné dans le peuple, dans la masse, on n'en entend plus parler. 40 ans, il se passe 40 ans, il meurt aussi tous autour de lui, sa génération meurt, lui, il est toujours là. Puis il y a l'entrée dans ce pays promis, sous la conduite de Josué, les victoires s'accumulent, il y a 5 ans de conquête, ça veut dire qu'il y a 45 ans que Caleb a reçu une promesse. D'ailleurs, il y en a un qui parlait la semaine passée de 50 ans, qu'il a dû attendre 50 ans pour que les promesses de Dieu se réalisent. Jean-Christophe, il nous a partagé ça. Donc voilà, il y a Caleb, il y a Jean-Christophe. C'est peut-être plus proche de nous. Alors on ne sait pas comment ce Caleb a réagi pendant tout ce temps. Il n'en est pas parlé. Mais dans Josué 14, les versets 6 à 14, il y a eu toute cette entrer dans le pays promis, 5 ans de conquête, et à un moment donné, les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, tiens, il est là. Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Est-ce qu'il va commencer à se lamenter? On va lire la suite. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. 45 ans. Et le gars, il a 85 ans. Il a attendu pour hériter la promesse de Dieu. Cette promesse, je le ferai entrer. C'est quelque chose qui a résonné dans son oreille, qui est resté là. Je le ferai entrer. Et au chapitre 15 du livre de Josué, on peut lire comment est-ce que Caleb est entré dans son territoire. Il a chassé les géants de leur ville. Voilà, il y allait. C'était le temps de Dieu. Il a attendu le moment. Il a attendu le feu vert. Il a eu la patience. Et quand le temps est venu, il était prêt. Il était prêt à y aller. Et si ce matin, j'ai à cœur de prendre ces deux personnes comme référence un peu pour mon message, c'est des exemples de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer si mon regard est fixé sur Christ. Bien sûr, je suis imparfait, tu es imparfait, on est imparfait. Notre Église est imparfaite. On fait des erreurs, parfois même de grosses erreurs. Mais même à ce moment-là, de quel côté de la balance est-ce que je fixe le regard? Du côté de la grâce de Dieu, qui par Jésus-Christ nous a totalement libérés du poids de nos fautes? Ou du côté de mes incapacités, de mes ratés, de mes loupés, de tout ce que j'ai pas fait? Et qui ces choses qui s'accumulent? Quelle promesse as-tu reçue? Il y a des promesses que tu as peut-être reçues il y a longtemps. Des promesses que le Seigneur peut avoir posées sur ta vie. Et aujourd'hui, tu te dis, mais là, il n'y a rien qui s'est passé. Ou peut-être j'ai essayé, puis ça n'a pas joué. Il y a des promesses pour lesquelles on doit se bouger, on doit se mettre en route pour que quelque chose se passe. Et c'est vrai, il y a d'autres promesses que Dieu nous donne, où à un moment donné ou l'autre, il y a le feu vert, et c'est le moment, il faut y aller. De quel côté de la balance est-ce qu'on fixe nos regards? C'est vraiment ce que j'avais tout demandé ce matin. Est-ce qu'on veut faire confiance à Dieu? Et le laisser diriger nos vies, le laisser prendre la direction de nos vies et le laisser aussi nous pousser, comme il l'a fait pour Josué. Vas-y, lance-toi, mets-toi en route. Et je crois qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de dons que le Seigneur a donnés, pour lesquels c'est le moment aujourd'hui, de se réveiller, de se mettre en route. L'Église en est à un niveau, à un endroit où elle a besoin des dons que le Seigneur accorde à l'Église. Je parlais au début de composer des chants, de ne pas y arriver, d'avoir une vision dans ton cœur dans laquelle tu ne peux pas entrer. Dans le livre d'Habacuc, Dieu parle à Habacuc et il lui parle d'une vision qu'il reçoit et il lui dit au sujet de cette vision, « Mets la vision par écrit, grave-la, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est certain, elle s'accomplira. Grave-la, garde-la en toi. » Et on le voit dans tout ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on a vécu dans les 3 semaines de prière, de jeûne et prière qu'on a vécu, dans ce qui se passe ces derniers temps dans l'Église, mais pas que dans notre Église, dans l'Église en général. Dieu est en train de réveiller son Église. Et s'il doit nous secouer davantage encore pour qu'on se lève, il le fera. Il veut une Église qui soit debout, il veut une Église qui soit prête à entrer dans sa destinée. Les fardeaux que Dieu met sur mon cœur, est-ce que j'en fais une priorité? Ou est-ce que c'est quelque chose que je mets de côté et on verra plus tard? Même ces fardeaux qui sont pour plus tard, il faut qu'ils restent une priorité dans ma vie. Ils doivent se graver dans ma vie, ils doivent être là, ils doivent être prêts à se mettre en route. Et aujourd'hui, c'est à nous de nous mettre en route, c'est à moi de me mettre en route pour que quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, dans ma ville, dans mon village. Je crois que c'est plus le temps des compromis où une fois on regarde à droite, une fois à gauche, on ne sait pas trop où on en est. Il y a un moment donné où on doit fixer notre regard sur Dieu. Et je crois aujourd'hui, le Saint-Esprit veut réveiller ces visions que Dieu a placées en nous, ces visions qui ont été reçues, ces paroles qui ont été données. Aujourd'hui, c'est le temps de se lever. C'est le temps pour nous de nous lever. Dimanche passé, Florence parlait de l'alliance, notamment du mariage, et de l'alliance en général, et de cette alliance qui nous lie les uns aux autres. Tes dons que tu as peur d'exercer, ces dons que tu n'as pas forcément envie d'exercer, c'est des dons qui manqueront à l'Église, d'une manière ou d'une autre. Certes, Dieu va nous les donner différemment, les donner à l'Église différemment peut-être, mais aujourd'hui, s'il te les a donnés, c'est pour que tu puisses le servir dans l'Église, le servir avec tes frères et sœurs. Et je crois que Dieu veut nous parler à chacun ce matin. On peut se dire, ouais, moi j'ai trouvé ma place dans l'église, j'ai trouvé ma place dans les nettoyages, dans la garderie, dans l'école du dimanche, dans je ne sais pas, il y a plein de choses, dans la bibliothèque, il y a plein de choses, oui, j'ai trouvé ma place, tu as trouvé ta place. Mais peut-être même que tu as trouvé ta place dans des petites choses, puis tu te dis, ben voilà, moi je fais ça. Mais le Seigneur voit ton engagement et voit que tu es prêt à t'engager et il veut te donner plus ce matin. Il veut te donner plus, il veut que tu puisses aller plus loin. Parce qu'il voit combien tu es fidèle. Dans les petites choses aussi. Il veut que tu puisses avancer, que tu puisses te mettre en route. Davantage encore. Dans Jean 10, le verset 10, Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dans la période qu'on vit, on n'est pas appelé juste à essayer de survivre, à essayer de s'en sortir, à essayer de garder la tête hors de l'eau. on est appelé à vivre la vie de Dieu en abondance. Et si on vit la vie de Dieu en abondance, il y a quelque chose qui va se passer autour de nous. On est appelé à être là pour le monde qui est autour de nous. Dieu nous appelle à être des personnes qui marchent avec lui, qui marchent avec lui et qui marchent en son nom là où il nous place. Est-ce qu'on est prêt à recevoir sa vie en abondance? Ah oui, Seigneur, moi je veux. Mais recevoir sa vie en abondance, ça veut dire que j'ai à me lever, j'ai à me mettre en route, j'ai à donner, à transmettre ce que Dieu m'a donné, parce que ce n'est pas que pour moi. C'est ça la vie en abondance. Entre nous, elle est chouette, la vie en abondance, on peut la vivre, des super cultes, des super temps de louange. Et on en a besoin, de vivre ces moments forts avec Dieu, ces moments où Dieu nous relève, où il nous conduit plus loin, où il nous montre le chemin. Mais la vie en abondance, c'est... Ouais, c'est aussi seul, seul dans notre coin, seul dans notre champ de mission. C'est la vie en abondance aussi. Il y a deux semaines, Ritza, je crois qu'il avait conclu par ce mot, mais je suis plus sûr si tu avais conclu, mais si tu avais commencé, mais c'est pas grave. Lève-toi et resplendis. C'est notre temps. Ouais, c'est notre temps de resplendir, c'est notre temps de nous mettre en route. Alors est-ce que ce matin, on est prêt à nous mettre à l'écoute de Dieu et à le laisser nous parler, à le laisser transformer les choses, réveiller les choses en nous qui doivent être réveillées pour que lui puisse être glorifié, glorifié dans ma vie, au travers de ma vie, au travers de l'Église, qui puisse être glorifié. J'aimerais prier encore. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu restes Dieu. Quelles que soient les montagnes qu'on a pu se mettre autour de nous, qu'on a pu accumuler devant nous, qu'on a pu accumuler entre toi et nous, tu restes Dieu. Et Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous encourages, Seigneur, à prendre ta parole au mot, à avoir cette foi, Seigneur, que oui, les montagnes sont déplacées. Les montagnes sont déplacées. Et c'est toi, Seigneur, qui prend toute la place. C'est toi, Seigneur, qui devient la priorité. C'est toi, Seigneur, qui devient la priorité dans nos vies, qui devient la priorité dans ce que tu places en nous. Seigneur, je veux te dire merci pour chacun ici, chaque personne, parce qu'il n'y en a aucune, Seigneur, que tu as oublié, aucune, Seigneur, que tu laisses dans un coin en attente. Chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous appelles à être debout, prêt à t'obéir, prêt à marcher avec toi. C'est le temps de nous lever, c'est le temps de marcher avec toi. Et Seigneur, oui, Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui fais ton œuvre ce matin. Et Seigneur, que ces paroles qu'on entend résonner en nous peut-être maintenant, ces paroles que tu nous rappelles, ces engagements peut-être qui ont été pris et aujourd'hui il n'y a encore pas de résultat. Seigneur, qu'ils puissent aujourd'hui prendre vie et grandir en nous. Grandir, Seigneur, dans l'Église. Porter du fruit. Seigneur, merci parce que, oui, tu es là et tu restes Dieu. Et on veut simplement, Seigneur, nous appuyer sur toi et avancer avec toi, là où tu nous conduiras. Seigneur, on veut être fiers d'être les enfants de Dieu, de ce Dieu vivant qui agit et qui agit puissamment aujourd'hui et qui va le faire dans nos vies, qui va le faire autour de nous. Seigneur, merci. Merci parce que c'est le temps favorable pour que ton Église se lève aujourd'hui. Et Seigneur, on veut marcher avec toi. On veut se lever et marcher avec toi. Conduis-nous pas, Seigneur, conduis-nous pas à chacun. Amen.